Acteurs lointains, et peu nombreux, mais ça va tout à fait dans le sens de ce dont nous allons parler aujourd'hui, qui est donc le dernier chapitre de l'épître de Pierre. Nous clôturons aujourd'hui l'étude des deux lettres de Pierre. Il se trouve que c'est moi qui avais commencé et c'est moi qui termine, donc... J'ai ouvert la porte, j'ai essayé de la refermer intelligemment en m'appuyant sur tout ce qui a été dit entre ces deux épisodes. Cette prédication n'est pas aussi structurée comme je pense que mes précédentes le sont, non pas par manque de temps, mais parce que j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer que sur ce chapitre terminal, parce que plus j'y revenais, plus je me rendais compte qu'en fait il était la conclusion de tout ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Et il me paraissait un peu limitatif de ne me consacrer qu'à cette fin de chapitre dont on a beaucoup parlé, tous les différents orateurs, en étudiant les lettres de Pierre. Et c'est pour ça que j'ai plutôt envie de... Et j'ai très peu de notes, ce qui est un risque, je l'accepte, mais... Je n'ai pas pu faire autrement. Et c'est un partage que j'aimerais avoir avec vous sur tout ce qu'on a entendu, lu, essayé de comprendre, et qui se terminera, si je l'ose et si j'ai le temps, par la relecture complète de ces deux lettres, qui ne sont pas si longues que ça. Pourquoi ? Parce que j'ai d'abord réécouté tout ce qui a été dit par Yann, qui avait fait l'introduction, évidemment Daniel et Emmanuel. J'ai toute cette semaine réécouté, grâce à notre ami José qui nous archive ça, toutes les prédications qui avaient été faites sur ces deux lettres. Et en écoutant la mienne, la première, je me suis rendu compte que j'avais dit que il serait sans doute très intéressant, quand on allait tout étudier par petits morceaux, d'avoir une vision générale en relisant ces lettres. Et peut-être qu'avec tout le bagage qu'on aura reçu, elles nous apparaîtront de façon différente. Et c'est ce que j'aimerais faire. C'est pour ça que mon introduction sera assez rapide et qu'ensuite, on essaiera de relire ces deux lettres-là. Donc ceux qui veulent déjà sortir peuvent, si le programme ne leur plaît pas. Je voulais aussi m'excuser, entre guillemets, de ne pas avoir été présent ces deux derniers dimanches. Je sais que dans notre église, chaque personne compte, parce que nous ne sommes pas nombreux. Et c'était pour deux raisons tout à fait différentes, mais qui rejoignent encore ce qui a été dit et ce qu'on va dire aujourd'hui sur Pierre. La première fois, c'est que j'étais pris par mon travail, j'avais des représentations théâtrales tout le dimanche. Et la semaine dernière, pour la fête des Pères, j'ai emmené ma fille à Euro Disney à Paris. Il fallait prendre un avion dimanche matin, voilà. J'avais la bénédiction de mes anciens qui me pardonnaient. Mais tout ça pour vous dire que dans ces deux moments-là, j'ai pensé très fort à nous, ici, dans cette église, où je n'étais pas avec vous. J'étais dans le monde, comme on dit. Première fois au milieu des gens du théâtre, qui étaient pleins de gaieté, pleins de joie de présenter leurs pièces et de montrer sur scène des vies qui sont des illusions, parce que ce ne sont pas les leurs, c'est le principe du théâtre. Et ensuite... Quand je suis parti l'autre dimanche à Euro Disney, j'étais à l'aéroport de Nice au moment où vous étiez réunis ici. Il y a eu une alerte à la bombe avec une valise qui est manquée, donc tout le monde a dû sortir, etc. Il y avait une foule énorme de gens qui se demandaient s'ils allaient pouvoir partir, pas partir, qui commençaient un peu à se molester verbalement les uns les autres. Et ça grouillait, comme au théâtre la veille, ça grouillait vraiment de gens qui avaient perdu le sens de la vie. Je l'ai ressenti comme ça, et j'étais au milieu d'eux, parce que je fais partie du monde, et moi aussi, j'avais hâte de prendre cet avion, est-ce que c'est possible, pas possible, qu'on m'explique les choses, etc. Mais parfois, j'arrivais à prendre un peu de recul, je me disais, mais quelle vanité, à quoi court-on comme ça, après quoi court-on, et je pensais à vous, qui étiez ici, 20, 25, 30, 30, tranquille, pendant que moi, je courais... avec le monde, après le monde, dans le monde. Et je pensais à Pierre, à tout ce qu'on a entendu de lui et de tout ce que le portrait terrible qui fait des gens du monde, ça a été suffisamment dit, puisque dans cette épître, tout est en parallèle dans ces deux lettres entre ce que nous sommes censés être en tant que chrétiens et ce que le monde est censé être. Et ça a été encore plus fort, donc à Euro Disney, j'y suis arrivé, et c'était le grand spectacle de la Reine des Neiges, c'est pour ça que j'ai amené ma fille. Donc la Reine des Neiges, tout de suite, ça fait penser à notre roi à nous, le roi des cieux et de toute création, mais là, évidemment, il n'en était pas question. Il y avait un très beau spectacle de 20 minutes où les enfants étaient ravis, et le grand chant, la grande chanson que vous avez dû entendre sur les radios qui fait plaisir à toutes les petites filles dans le monde entier s'appelle « Délivrer, libérer ». Et donc tout le monde reprenait ça en cœur, moi en premier, parce que je suis très très bon public. Et je me disais, voilà, nous sommes dans le monde, devant une Reine des Neiges qui est un dessin animé, qui est une femme qui est censée avoir des pouvoirs, et tout le monde chante, très content, libéré, délivré. Et vous êtes ici, devant un roi autrement plus sérieux et vivant, en train de, à travers tous ces chants, d'une certaine façon, de dire qu'il nous a délivrés, qu'il nous a libérés. Et à certains moments, j'avais envie de me lever, au milieu de, parce que c'est une très grande salle, il y a plus de 1000 personnes à chaque fois, parce que Nikita m'a fait voir le concert 5 fois, hein, donc j'ai eu le temps de l'apprendre, de me dire, mais les paroles que vous chantez, elles ont un vrai sens si vous les appliquez à la bonne personne. Et puis je ne l'ai pas fait, parce que d'abord je suis un trouillard, je me serais fait jeter, et puis ce n'était pas la place de le faire. Mais je trouve que ces deux lettres de Pierre, moi c'est comme ça que je les ai reçues depuis le mois de janvier, m'ont vraiment remis dans le... soit en les étudiant, soit en écoutant ce qui avait été dit par les autres orateurs, m'ont remis dans le sens de ce verset dont j'avais moi-même parlé, parce que c'était tombé sur moi, qui était que nous étions étrangers sur cette terre, voyageurs sur cette terre. Et ça m'est encore apparu de façon plus évidente, à travers ces deux petites anecdotes qui peuvent vous paraître puériles, mais on ne vit que d'anecdotes et que de petits moments, qui ensuite vous permettent de réfléchir. Et je me disais, c'est extraordinaire, et ça je reprenais donc ce qui avait été dit par Yann, que ces paroles-là nous aient été données par Pierre, qui lui-même reconnaît son infériorité intellectuelle par rapport à Paul, on l'avait vu, et qui vient vraiment du monde le plus basique et qui a été totalement transformé, sauvé, tiré du lot, malgré toutes ses faiblesses et ses défauts, qui a vécu dans le monde, qui a continué à être parfois maladroit dans ce monde-là, et par exemple quand il renie notre Seigneur, mais malgré tout qui a tenu bon, que Jésus lui a sorti à chaque fois la tête de l'eau, même quand il marchait sur le lac, et que c'est lui qui nous passe ce message-là. Et c'est vrai que parfois, quand c'est Paul qui nous le dit, on sent que cette personne a une telle instruction, tellement intelligente, tellement au-dessus de beaucoup d'entre nous, que on se dit, c'est pas évident de comprendre ce qu'il dit. Lui peut le comprendre ou peut le vivre parce qu'il est un peu supérieur. Et avec Pierre, ce n'est pas le cas du tout. Alors là encore, je ne fais que répéter des choses qui ont été dites par d'autres, mais c'est ce que je voudrais aujourd'hui que l'on se remémore une nouvelle fois, puisque nous terminons ce cycle sur les lettres de Pierre, c'est que ce sont des lettres extrêmement puissantes, parce qu'elles nous parlent aujourd'hui d'un monde qui existe aujourd'hui. Et si on a un peu la curiosité d'ouvrir nos regards sur nous-mêmes quand on est dans le monde, c'est-à-dire 99% du temps, on se rend compte que tout ce que dit Pierre est vrai, et qu'on est vraiment dans le corps de son discours sur « je suis étranger sur cette terre, je ne suis que voyageur ». Et c'est pour ça que j'ai des responsabilités que Jésus m'a données et je dois en être conscient. Nous avons eu 9 prédications sur Pierre. Simplement, je vais vous redonner les titres. Donc, c'était une vie entre Yann, Daniel et Emmanuel. Pierre le pêcheur, vivre avec une grâce absolue avec l'Évangile, le fondement de notre foi, la relation avec notre prochain, les jours heureux, en finir avec le péché, la pyramide de la connaissance, ce ne sont pas des fables, des faux enseignements. Et un que Emmanuel a intitulé 1 Pierre 5, parce qu'il devait se dire que le titre n'était pas jouable. Voilà. Et je trouve que ces titres sont aussi un bon résumé de ce qu'on a pu entendre, mais aussi de ce que l'on vit au quotidien. Donc Pierre le pécheur, vivre une grâce absolue avec l'Évangile, le fondement de notre foi, la relation avec notre prochain, les jours heureux, mais en finir avec le péché, la pyramide de la connaissance, ce ne sont pas des fables, faux enseignements. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au milieu de toutes ces prédications, à un moment, Daniel a eu un sujet libre. Donc il est sorti des clous, et de quoi il nous a-t-il parlé ? Il nous a parlé de la fin des temps. Je ne sais pas si tu te souviens. Il faut que je vous parle de la fin des temps. C'était sur Ésaïe. Eh bien, c'est intéressant parce que, sans le savoir, entre guillemets, tout le chapitre 3 de la deuxième épître de Pierre ne parle que de ça. Il parle de la fin des temps. Et il remet en perspective l'objectif fondamental de ces lettres de Pierre, et en fait de toutes les Écritures, c'est que toutes les Écritures ne nous préparent qu'à une seule chose, c'est à la fin des temps. Si nous reprenons la première lettre de Pierre, on avait vu qu'elle parlait du présent. C'était des choses présentes. Faites ceci au présent par rapport à vos maîtres, à vos femmes, à vos maris. Comment se comporter au présent ? Donc l'amour était un objectif. Dans la deuxième lettre, on avait vu que ça parlait plutôt de l'avenir. Il va se passer ceci, il y a des gens qui vont dire cela, et l'amour devenait en fait un moyen, mais qui était porté par la connaissance. C'était la connaissance de notre Seigneur, la connaissance de Dieu, qui nous permettait d'avoir l'amour, et donc de le vivre au présent, comme si la deuxième lettre était en fait l'introduction à la première lettre. Et nous avions vu que le christianisme était une affaire individuelle. C'était nous-mêmes qui avancions dans la connaissance de notre Seigneur. Vous vous souvenez de l'histoire de la pyramide. On avait aussi parlé de la douleur, je ne sais plus lequel des deux avait parlé, que suivre, apprendre à connaître Dieu, c'était aussi partager sa douleur, qu'il fallait l'accepter, et que parfois même c'était un fardeau qui devait nous être léger, parce que c'était au nom de notre Seigneur que nous le subissions. Et tout cela permettait d'avoir une connaissance personnelle de notre Seigneur et donc d'être sauvé individuellement. La connaissance de Dieu amenait la connaissance de la vérité et la connaissance de la vérité amenait la liberté. Et l'épître de Pierre, ces deux épîtres, c'est comment vous pouvez devenir libre dans ce monde par des méthodes qui nous paraissent de premier abord le contraire de la liberté. Soyez soumis à vos maîtres, soyez soumis à vos époux, à vos épouses, etc. Et si l'on s'arrête à ça, en fait, ça ne devient que des lettres qui font la morale. Il faut faire ceci comme ci, il ne faut pas faire ceci comme cela, et suivez ces instructions. Mais si ce n'est que de la morale, ça n'a aucun intérêt si on oublie que tout ça a une finalité. Et la finalité, c'était Jésus qui l'avait donc donné à Pierre, paix mes brebis, paix mes brebis. Mais il ne faut pas oublier que ce paix mes brebis avait aussi une suite, et c'est la dernière parole de Jésus qu'on voit dans Matthieu 28, c'est le dernier verset. Donc là, ça va plus loin que Pierre, ça nous concerne. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est cette notion de fin du monde qui me paraît importante, parce que c'est l'échéance, la manière de vivre que Pierre nous dit de suivre, elle n'a d'intérêt que pour une raison, c'est pour nous préparer à la fin du monde. C'est pas pour être meilleur avec les gens qui nous entourent, point, pour que la vie au quotidien soit plus facile, même si elle l'est, forcément. mais c'est parce qu'on se prépare à la fin du monde. La fin des temps, c'est là que toute la Bible prend son sens. Et pour nous, dans nos vies, c'est là que ça prend tout son sens. On est étrangers et voyageurs sur cette terre parce que nous savons que cette terre, elle va passer, que cette terre, elle va être détruite, que cette création magnifique dont Dieu est si heureux dans la Genèse, je ne vais pas le relire, où il dit « j'ai créé et tout était bon, tout était merveilleux », déjà une fois avec l'époque du déluge dont on reparle dans les épîtres de Pierre, il a voulu tout supprimer une fois, et au nom de cette patience dont Emmanuel disait que j'en dirais quelques mots à juste titre, la patience pour Noé et quelques-uns, la terre a recommencé, n'a pas été détruite, la fin des temps n'est pas arrivée là. Et puis c'est reparti. Et là, on arrive dans la deuxième période où la fin des temps, de toute façon, elle est arrivée. Quand, qui, etc. Ça, vous savez que ce n'est pas dans nos cordes de répondre à cette question-là. Mais c'est notre échéance qui nous est fixée, c'est notre objectif. Et ces lettres de Pierre ne disent que ça. Elles le disent tellement bien que si on lit les versets 13 et 14 du fameux chapitre que je devais étudier aujourd'hui, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Ce verset 14, c'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Ça n'a qu'un seul intérêt. C'est d'être prêt pour la fin des temps. Cette fin des temps qui est décrite ainsi, au verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'événement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Et ensuite, les deux versets que je vous ai lus précédemment. La description, elle est claire. Et efforcez-vous d'être trouvé sans lui, par lui sans tache et sans défaut dans la paix, c'est vivre comme il nous enjoint de le faire, surtout dans la première lettre, mais simplement pour être prêt pour le grand jour. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et cette échéance qui, pour lui, est claire, nette et précise, il la recule. Verset 9, « Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Quand je dis qu'il le recule, je me trompe, puisqu'il dit exactement le contraire. Disons que lui connaît la date extrême, mais l'échéance a été fixée à un tel point, une date que nous ignorons, mais simplement pour que le plus grand nombre puisse ne pas tomber dans ce moment épouvantable où les cieux vont s'embraser, où tout va être dissous. La terre va être dissoute. Il faut quand même en être conscient de ça. C'est pas la Reine des Neiges, là, où à la fin tout le monde applaudit au théâtre quand j'étais avec mes élèves et le rideau se ferme et puis la vie recommence. La vie ne recommencera pas. À la limite, c'est pour ça que nous croyons. Parce que la peur de la mort, nous l'avons tous en nous. L'incompréhensible, le fait que nous ne comprenions pas pourquoi nous sommes nés. Tiens, du coup, il y a une vie qui passe et à la fin, on va arriver à notre première échéance à nous, qui en soi n'a aucune raison d'être si derrière, il n'y a pas quelque chose de plus puissant. Et c'est quelque chose de plus puissant, c'est cette espérance dans notre Dieu qui va nous faire vivre une autre vie selon sa promesse des nouveaux cieux et nouvelles terres où la justice habitera pour l'éternité. C'est ça qui nous tient debout, c'est ça qui donne un sens à notre présence là, ce matin, au lieu d'être dans un avion, au lieu d'être sur une scène de théâtre ou ailleurs. Et c'est ce qu'il dit dans le dernier verset de sa deuxième lettre, « Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui la gloire maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. » C'est-à-dire jusqu'au jour où tout va s'arrêter dans le temps mortel pour rentrer dans le temps éternel. Et ça, ça nous concerne. Et Pierre ne dit que ça. J'ai réécouté tout ce que vous avez dit, j'ai relu, ça ne dit que ça. Et c'est pour ça que ça nous parle. Et tout ce qu'il peut dire par rapport à le comportement qu'on doit avoir au quotidien entre nous, avec les gens du dehors, c'est simplement pour qu'on se préserve de la chute, du retour en arrière qui serait fatal, du fameux péché contre l'esprit, qui fait que quand le jour J va arriver, qu'on soit encore là ou qu'on soit plus là, mais on sait que de toute façon ça concerne tous ceux qui ont vécu un moment ou l'autre sur Terre, on soit du bon côté du wagon. Elle est là, notre échéance. Donc, n'oublions pas cette évidence que tout le monde oublie. Et c'est ce que dit Pierre, quand il dit au verset 2 de ce fameux chapitre 3, « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront selon leurs propres convoitises et diront « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. » En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu, et que par les mêmes causes, le monde alors périt submergé par l'eau. Tout le monde veut oublier le fait que la terre a été créée, donc si elle a été créée, c'est qu'à un moment, elle ne va plus exister, et que tout ça est entre les mains de Dieu. Et tout ce que Pierre décrit comme la marche du monde, les cupides, les ceci, les cela, c'est que la course folle des fourmis qui essayent d'oublier l'épouvantable étrangeté de notre condition. Qui est, si on regarde un peu et qu'on se place au-dessus de l'espace et du temps, donne à notre condition humaine une absurdité totale. C'est absurde. Hors des mains de Dieu, c'est absurde. Et si on n'est pas prêt pour cette échéance qui va détruire ce monde pourri, car ce monde est pourri, regardez encore ce qui s'est passé hier ou avant-hier, ces attentats, c'est tellement évident. Mais qui y pense? Qui veut y penser? Nous, on veut y penser. Et c'est en ça que Pierre, quand il a reçu l'ordre de Jésus, « Vas-y, paie mes brebis », et c'est ce qu'il fait, Pierre, dans cette année, il dit « Maintenant, c'est vous qui prenez le relais. » Parce qu'il y a une échéance, il y a quelque chose contre lequel on ne peut rien et qui va arriver. Et si les gens continuent de manger, de boire, de se marier, comme il est dit à propos de ce qui se passait avant le déluge, ça va leur tomber dessus. C'est ça que raconte Pierre. Alors, on l'a vu par petits bouts. J'ai besoin, moi, j'ai ressenti, c'est pour ça que j'ai pas pu faire quelque chose de structuré, là j'ai 4 notes, et j'espère que ça reste compréhensible pour vous, que j'ai ressenti le besoin maintenant de lire ces deux épîtres. À l'aune de ce que vous avez entendu, de ce que j'ai essayé de vous résumer rapidement, et de le prendre comme si Pierre était là, il est là, grâce à ces lettres. Et il nous dit quelque chose qui nous concerne, nous, aujourd'hui, sur notre monde actuel, sur notre façon de vivre, et sur ce qui va arriver demain, dans un mois, dans un an, dans un siècle, je ne sais pas. Et que l'on se quitte ce matin en se disant que ces deux études de Pierre, dont il est dit qu'il les a écrites pour éveiller en nous une claire intelligence, ce ne soit pas une intelligence que intellectuelle, je dirais une intelligence du quotidien, c'est une intelligence sur la nuit des temps, sur la fin des temps, sur le projet de Dieu, dont nous sommes maintenant, grâce à lui, les complices, les bénéficiaires. C'est ça, être chrétien. Et ce projet individuel d'être chrétien dont j'ai parlé, à la fin des temps, ça va devenir un projet collectif. C'est-à-dire que là, ça sera l'humanité dans son entière qui sera concernée. Ceux qui sont nés depuis le premier jour jusqu'à ceux qui naîtront le dernier jour. Et ça sera collectif, là. Le jugement sera collectif, même si ce jugement collectif passera par des jugements individuels. Mais le temps de l'individu, il est maintenant, mais le temps du collectif, il arrive. Et c'est ce que Pierre nous dit aussi. Donc il est 11h28, si j'ai bien compté, j'en ai pour 15 minutes. J'ai demandé à José de ne pas mettre le texte là, parce que ça, d'abord, c'est pas toujours les mêmes mots, et puis quand on lit, on n'est pas dans la même concentration. Alors, je vais essayer, a priori, je sais lire correctement, c'est un peu mon métier. Je vais essayer de le faire bien. Ceux que ça embête, vous pouvez dormir, je le comprendrai, je vous en voudrai pas. Mais puisqu'en plus on n'est pas nombreux, et qu'on avait dit que les lettres de Pierre s'adressaient vraiment aux chrétiens, à ceux qui étaient croyants, à ceux qui étaient concernés. Ça avait été le début, je me souviens, quand Daniel et Yann l'avaient dit, avaient insisté sur ça. Donc c'est pour nous, là. Donc prenons ce temps-là, acceptons-le, c'est pas un temps zapping, évidemment, mais c'est Dieu qui nous parle, par celui qu'il a choisi, Jésus, qu'il a envoyé, et qui a lui-même a choisi Pierre, qui nous parle, et Pierre nous dit, maintenant, vous prenez le relais, et le relais, c'est nous. Donc prenez-le comme quelque chose qui concerne les gens qui sont dans les aéroports, dans les théâtres, dans les terrains de boules, dans les supermarchés, que nous côtoyons chaque jour. Première épître de Pierre. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie, élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui nous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse, quoi que vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse, en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leurs regards. C'est pourquoi affermissez votre pensée, soyez sobre, ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saint, car je suis saint ». Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous savez en effet que ce n'est point par les choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité entre les morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres, ardemment et de tout cœur. Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez par le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y achoppent en désobéissant à la parole, et c'est à quoi ils ont été destinés. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous appelait des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés. Comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Car c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Quelle gloire! Quelle gloire, en effet, y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si, tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui insultait et ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Et vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteaux élégants, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle inaltérable d'un esprit doux et tranquille, voilà qui est un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes, qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, telle Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les descendantes. Si vous faites le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte, mais vous de même, mari, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles, honore-les comme cohéritières de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Enfin, ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si, en effet, quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuivre, car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières, mais la face du Seigneur se retourne contre ceux qui font le mal. Qui donc vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous. Ne craignez pas ce que les hommes craignent et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte.
en ayant une bonne conscience, afin que là même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Par cet esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui avaient été rebelles autrefois lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour où Noé construisait l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve à présent, et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience, par la résurrection de Jésus-Christ, qui monté au ciel est à la droite de Dieu, et à qui les anges, les pouvoirs et les puissances ont été soumis. Ainsi, donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est suffisant en effet d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et l'idolâtrie criminelle. Ils trouvent étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement de débauche et ils vous calomnient. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela en effet que les morts aussi ont été évangélisés, afin qu'après avoir été jugés selon les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Et avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Et puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu, si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur ? Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée, faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous ont été confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, fermant la foi et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par le fidèle frère Sylvain que je vous écris ces quelques mots. pour vous exhorter et pour témoigner que telle est la véritable grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés. L'élu qui est à Babylone vous salue, de même que mon fils Marc. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Paix à vous tous qui êtes en Christ.
Quelques jours passent, quelques semaines passent, quelques mois. La deuxième lettre est plus courte. Écoutons ce que Pierre nous dit.
Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité et à la fraternité l'amour. Si en effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle. Il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection, et en le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordée l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. J'estime juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par mes rappels, car je sais, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, que mon départ de cette tente est imminent. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous en souvenir. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine que la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie n'a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup les suivront de leur dérèglement, et à cause d'eux, la voie de la vérité sera calomniée. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans des abîmes de ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement, s'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé 8 personnes dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, mais s'il a délivré Lot, le juste, profondément affligé par la conduite déréglée de ses criminels, car ce juste qui habitait au milieu d'eux, torturé jour après jour son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait, c'est donc que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour les châtier au jour du jugement. Ceux surtout qui, dans un appétit de souillure, recherchent le plaisir charnel et méprisent l'autorité du Seigneur. Présomptueux, arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, alors que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des animaux dépourvus de raison et destinés par nature à être capturés et détruits, ils injurient ce qu'ils ignorent, ils périront par leur propre corruption. L'injustice sera le salaire de l'injustice. Ils trouvent leur plaisir à se livrer à la volupté en plein jour. Ils ne sont que défauts et tâches. Ils se délèguent de leur tromperie en festoyant avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils séduisent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima un salaire injuste, mais qui fut repris pour sa propre transgression. Une bête de somme muette fit entendre une voix humaine et arrêta la démence du prophète. Ce sont des fontaines sans eau, des nuages que chasse la tempête. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours grandiloquents et creux, ils séduisent par les convoitises déréglées de la chair, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est l'esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elle, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe véridique, le chien est retourné à son vomissement et la truie à peine lavée va se vautrer dans le bourbier. Et le dernier chapitre. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. En toutes deux, je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence, afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront selon leurs propres convoitises et diront « Ah ! Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. » En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu, et que par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais, par la même parole, les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'événement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tâche et sans défaut dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets et où se trouvent des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Vous donc bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, maintenant et jusqu'au jour de l'éternité.